Dans ma vie, ce qui m'est arrivé de mieux, je peux vous le dire à vous, c'est d'avoir eu...
Radio Campus 88.3.
Merci. Au revoir.
Radio Campus. La science infuse.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Orléans, bienvenue dans la science infuse. Jusqu'à 15h, on est ensemble pour parler justement de science à l'antenne de Radio Campus Orléans. C'est le moment idéal, j'ai envie de dire, pour pouvoir se mettre sous un plaid avec un chocolat chaud ou une belle tisane, puisqu'il pleut pas mal aujourd'hui. Et c'est le meilleur moment pour écouter justement la radio et écouter Radio Campus Orléans. Je suis Erwan et aujourd'hui, on va parler de la fête de la science qui a débuté ce week-end sur le campus d'Orléans et qui continue jusqu'à dimanche prochain, ce sera jusqu'au 14 octobre. Souvenez-vous, on en parlait déjà la semaine dernière dans une édition d'Écoute ta fac, on parlait de la science, de la fête de la science spécifiquement sur le campus universitaire, et aujourd'hui dans la science infuse, on va parler de manière plus générale de la fête de la science, de l'organisme qui l'organise ici en Centre-Val de Loire, c'est Centre Sciences. Et avec nous pour en parler, nous avons le directeur de Centre Sciences, Olivier Morand. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons Taïna Gibert, est-ce que je le prononce bien ?
Non.
Non, zut, j'ai paniqué. Alors, c'est Taïna.
Parfait.
Taïna. Il faut penser au titane, j'ai envie de dire. Taïna, voilà. Taïna Gibert, du coup, tu es physicienne spécialisée dans les plasmas et les lasers ici à l'Université d'Orléans.
Bonjour.
Bonjour. Alors, la fête de la science, ça a commencé ce week-end. Alors, j'imagine que l'un et l'une, vous étiez... au rendez-vous, vous étiez là sur le campus au CNRS,
mobilisé.
Alors comment ça s'est passé ce premier week-end ?
Très bien, voilà, premier week-end. Alors ça a démarré officiellement la fête de la science, donc initié, un petit rappel quand même, par le ministère de la Recherche, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et c'est une opération qui est dans les dates officielles du 4 au 14 octobre, donc incluant le vendredi. Bon, souvent le vendredi, il n'y a pas trop de choses qui démarrent, c'était vraiment le tout début. Mmh. Mais il y avait quand même déjà des opérations qui existaient vendredi dernier. Et puis effectivement... il y a un peu partout sur le territoire, on reviendra là-dessus, des villages, des points de rassemblement de différents acteurs. Et là, ce week-end, il y en avait trois. Un à Vierzon, Taïna Gibert pourra en parler. Un à Blois, à l'IUT. Et puis un, effectivement, au CNRS d'Orléans, donc durant tout le week-end.
Alors, combien d'événements au total sur le territoire ? Centre Sciences, c'est le territoire régional.
Alors, Centre Sciences coordonne
sur le territoire régional.
N'organise pas, alors organise quelques actions propres, spécifiques, oui. Mais coordonne l'ensemble des actions de façon à ce qu'elles soient bien identifiées sur un site officiel du ministère de la Recherche. Donc ce site, c'est www.fetdelascience.fr. Là, il y a 300 actions recensées sur l'ensemble du territoire, sachant qu'il en manque toujours quelques-unes, parce que les acteurs n'ont pas eu le temps de s'inscrire, parce que voilà, il y a tout un... Mais voilà, 300 actions
300
qui
actions.
Sont réparties sur le territoire et qui... pour certaines, se fédèrent à travers notamment les villages des sciences.
Alors du coup, il n'y avait pas que le campus de l'université avec le CNRS ce week-end à découvrir, il y en avait un peu partout sur le territoire.
Oui.
Là, sur les 300 événements, combien ont déjà eu lieu ?
Ah, alors là, comme ça, je serais un peu incapable de vous dire le chiffre.
On va dire le premier quart, le premier tiers.
Un bon tiers,
oui,
voilà.
Un bon tiers.
Un tiers, puisque si on prend par exemple le CNRS, il y avait une quarantaine de structures et de stands présents, et y compris les laboratoires. Donc voilà, ça en fait déjà une quarantaine d'actions, de stands qui ont été identifiés sur le village des sciences au CNRS d'Orléans. Alors sur Vierzon, je ne sais plus, vous étiez une...
Oh, il y avait une bonne dizaine de stands sur Vierzon, oui.
Il y a eu du monde, les gens étaient au rendez-vous.
Ah, la fête de la science à Vierzon, c'est un grand rendez-vous annuel. En tant que scientifique, je le manquerais pour rien au monde, oui. Il y avait pas mal de gens et puis des gens très motivés, très intéressés. Et c'est très important d'aller dans des villes qui n'ont pas de laboratoire de recherche, qui n'ont pas d'université, pour aller vers les gens, oui.
Et un public en général plutôt familial. Mmh. Voilà, avec donc des parents, des enfants, des petits.
Des futurs scientifiques.
Ouais, alors on espère.
On croise les doigts.
On espère.
Oui, collégialement, on a dit on espère ensemble, mais effectivement, c'est un peu le but aussi, la fête de la science. C'est à la fois montrer ce qui se fait, voilà, dans les labos, mais montrer à travers toutes les activités, on pourra reparler de quel type d'acteur peut intervenir, montrer, mais aussi voilà, impulser, suggérer l'envie. Moi, j'étais à un moment donné, samedi après-midi, samedi matin, j'étais sur le CNRS, mais samedi après-midi, je suis allé à l'IUT de Blois, et il y avait une visite des ateliers de l'IUT de Blois avec du public pour découvrir tout ce que peuvent utiliser les étudiants pour travailler notamment le métal, travailler les polymères, travailler les matériaux composites, etc. Et donc on voyait tous ces ateliers, il y avait plein d'enfants qui étaient présents et on voyait bien leur intérêt sur l'utilisation de ces machines parce qu'on montrait des objets qui étaient fabriqués. Alors là, on est sur des projets développés par des étudiants. Le Titania Gibert aussi en a sur Polytech qui font des projets. Là, c'est des projets un petit peu plus industrialisés, technologiques. Mais on voyait bien l'intérêt des enfants qui posaient des questions et puis regardaient ces machines avec un petit peu envie de... Alors là, on ne pouvait pas les voir fonctionner toutes parce que pour des raisons de sécurité, ce n'était pas possible. Mais vraiment, visiter, et ça, c'est l'occasion de la fête de la science, visiter l'antre, on va dire, des laboratoires ou des IUT, c'est ce qui permet de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir.
Titaina, toi qui es physicienne spécialisée dans les plasmas et les lasers, tu proposais l'ouverture d'un laboratoire ou des démonstrations ce week-end ?
Alors, en dehors de l'intervention que j'ai faite avec une collègue à Vierzon, mon laboratoire, qui est le GREMI, groupe de recherche sur l'énergétique des milieux ionisés, était présent au village des sciences du CNRS. Donc, il y avait un stand qui a été animé par des collègues et un tout petit peu moi-même dimanche matin sur les plasmas, donc à quoi ils servent. On avait amené 3 manips pour montrer au public qu'on mettait en œuvre, donc des applications un peu anciennes, nouvelles et pourquoi pas futures. Donc ça permettait d'échanger avec le public sur ce qu'est ce quatrième état de la matière qui est assez peu connu. Et ce n'était pas des ateliers, hein, c'était juste de la démonstration parce que pour des raisons de sécurité également. Mais si je peux revenir sur la fête de la science, pour moi, c'est un événement qui est très important parce qu'il y a plusieurs intentions derrière la fête de la science. Donc évidemment, il y a l'intention de montrer la science au tout public, aux gens qui n'ont pas l'occasion de rentrer dans les laboratoires de recherche ni de discuter avec des scientifiques et de le faire à cœur ouvert. Donc c'est une mission d'étonnement parce que la science, c'est très beau et quand les gens viennent dans un laboratoire de physique et découvrent des choses que toutes les manips sont pièces uniques, il n'y en a pas une autre comme ça au monde, en général, ils repartent et sont assez épatés. Donc cette mission d'étonnement, c'est la première mission, peut-être la plus facile à réaliser. De manière sous-jacente, on espère évidemment attirer les jeunes vers des métiers de la science et vers tous les métiers de la science, parce qu'on parle souvent du chercheur qui montre sa manip. Non, il y a des chercheurs, il y a des chercheuses, il y a du personnel administratif, il y a des ingénieurs. Il y a beaucoup de métiers qui sont adossés à la recherche scientifique et il est très important qu'on soit représenté dans ces journées ouvertes pour que le public puisse finalement se dire « tiens, ça pourrait être moi un jour ». Et dans le « ça pourrait être moi un jour », il est aussi hyper important d'avoir des femmes. Parce que les femmes, c'est la moitié de la population et on connaît maintenant, ils ont été quantifiés, étudiés, ça a été publié, que les femmes, les jeunes femmes en âge de faire des études se mettent des freins incroyables face aux sciences. La science est faite pour tout le monde, quelle que soit son origine géographique, quel que soit son genre, quelle que soit son origine sociale, la science est vraiment universelle. Et la fête de la science, c'est une occasion de prouver que ces paroles sont vraies, parce qu'on est tous, toutes là, et on attend le public, et on accueille le public, tout le monde de la même manière. Et je pense qu'il n'y a pas de questions bêtes, que quand les gens osent vous poser des questions, on est les plus heureux et les plus heureuses du monde, parce qu'on se dit qu'on a apporté quelque chose. Et puis ces journées, ces moments, c'est aussi l'occasion d'échanger avec le public. Et dans l'échange avec les publics, c'est pas dans un seul sens. Parce que les gens, quand ils vous posent des questions ou quand ils touchent quelque chose, parfois, ça m'est arrivé à Vierzon sur mon stand, il y a un monsieur qui est venu 3 fois sur le stand. Et il a expliqué quelque chose à sa petite fille à son 3e passage et je me suis dit, mais extra comme explication, donc je vais le plagier maintenant pour l'explication.
Dis-nous tout.
Non, mais j'avais juste, je montrais qu'un anchois devenait invisible et j'avais juste pas pensé à faire passer un anchois dans la zone d'invisibilité. Et lui a fait passer son doigt et a dit, tu vois là, comme ça, on le voit plus. Je lui ai dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé, quoi.
Alors, va falloir m'expliquer un anchois, donc on parle du petit poisson méditerranéen, très très salé, qu'on peut retrouver sur des pizzas, qui devient... invisible, c'est grâce au laser ?
Non, pas du tout. Il y a peu de lasers dans l'océan et quand ils sont en général contrôlés par des entreprises et les anchois ne peuvent pas se les offrir.
Alors du coup, ils font comment les anchois pour contourner...
Alors les anchois, quand on ne peut pas se payer de la physique, on fait de la chimie en fait.
Ouais.
Donc les anchois ont une... Alors j'ai pris ça dans un livre qui s'appelle Les génies des mers, qui est extraordinaire. Ils ont une pellicule transparente sous leurs écailles qui est constituée de deux molécules qui font en sorte de réfléchir de manière complémentaire la lumière. Et c'est un miroir parfait, c'est comme si vous vous baladiez avec un miroir sur le dos, donc on ne vous voit pas. Alors je pense que ça marche parce que les anchois sont nombreux, etc.
Et les anchois deviennent du coup invisibles puisqu'ils réfléchissent
la lumière. C'est leur cape d'invisibilité, ils ont une vraie cape chimique d'invisibilité. Et tout ça, ça me permettait de passer sur des propriétés méconnues de la lumière et de reprendre ma casquette de physicienne.
Alors d'ailleurs, j'ai une question pour toi, parce que moi, en faisant de la radio, j'explique souvent aux étudiants et étudiantes que je forme qu'il y a un point commun entre la lumière visible et les ondes radio, et je leur dis que c'est la même chose, puisque la lumière, c'est... Et là, je bug. Je leur dis, c'est à la fois une onde et c'est à la fois une particule. Alors, qu'est-ce que c'est la lumière ?
Alors, finalement, on peut utiliser ce terme qui est très galvaudé, qui fait très peur, mais le grand public le connaît. Les ondes radio et la lumière, ce sont des ondes électromagnétiques. C'est tout.
Alors, c'est quoi le photon ?
C'est une onde électromagnétique.
C'est une onde...
C'est la particule qui va avec l'onde électromagnétique.
C'est la particule qui bouge et qui crée l'onde ? Ou c'est plus complexe
que
ça ?
Non, la particule voyage à la vitesse de la lumière et tant qu'elle n'a pas d'obstacle, elle ne s'arrête pas. On parle de dualité onde-corpuscule.
Ouais.
Et en fait, la lumière est soit un photon, soit une particule, soit une onde. Ça dépend de la manière dont on la regarde finalement. C'est comme une pièce qu'on ferait toujours tourner d'un côté pile, d'un côté face, mais jamais pile et face à la
fois. Est-ce que ça serait la même chose que le chat de Schrödinger ?
Alors, le chat de Schrödinger, ça relève effectivement de la mécanique quantique, mais c'est pas tout à fait ça quand même. C'est autre chose, mais ça va avec. Hein.
On pourra en reparler l'année prochaine.
Avec plaisir.
C'est l'année de la quantique.
C'est l'année centième anniversaire de l'année de la quantique au niveau international. Donc, il y aura certainement des choses à dire l'année prochaine. Donc, il faudra qu'on revienne et il faudra que vous invitiez plusieurs physiciens.
Et on reparlera du chat de Schrödinger l'année prochaine à l'antenne. Mais pour nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent, le chat de Schrödinger, c'est une expérience de pensée. Hein, vous allez être rassuré parce qu'il n'y a jamais eu de mal qui a été fait à un chat, puisque l'idée c'est de tuer un chat en le mettant dans une boîte et ça permet de pouvoir prouver.
C'est
pas tout à fait ça. Il est pas mort. Il est pas mort. Moi je vais vous expliquer ma vision.
Il est à la fois mort et vivant.
Je vais vous expliquer ma petite vision, on va dire grand public, vulgarisée, et puis Titania pourra compléter d'un point de vue purement physicien. C'est-à-dire que le fait que le chat soit enfermé dans une boîte et on n'a aucun moyen de vérifier s'il est vivant ou mort. Et donc le seul moyen c'est d'interagir et d'observer. Et donc, quand vous observez une particule, vous la perturbez. Et donc, c'est un peu ça le concept de Schrödinger. C'est dès que vous voulez observer quelque chose, inévitablement, vous êtes aussi amené à l'éclairer ou le perturber. Et donc, vous modifiez un petit peu son état. Et donc là, dans le concept du chat Schrödinger, c'est ça qui a voulu être expliqué.
On ne peut pas savoir du coup si le chat est mort ou vivant. Il est dans les deux états à la fois, c'est ça ?
Les deux états sont superposés. Tant que vous ne l'avez pas mesuré, vous n'avez que des probabilités qu'il soit mort et des probabilités qu'il soit vivant. Cette probabilité évolue au cours du temps. Mais tant que vous ne l'avez pas mesuré, vous ne le savez pas. Et dès que vous mesurez, vous précipitez le chat dans un état soit mort, soit vivant. Il n'y en a pas d'autre. Il n'est pas moitié mort, ni moitié vivant, ni trois quarts mort, ni trois quarts vivant. Il est mort ou vif, mais on ne le sait pas. Et la mesure perturbe, et on ne peut pas faire autrement, c'est inhérent à la physique quantique, la mesure perturbe le système. Et quand vous avez mesuré, il est pour toujours mort ou pour toujours vivant. Bien sûr, comme c'est une image, on comprend qu'il soit pour toujours mort, mais pour toujours vivant... Il faut l'imaginer.
Bon, visiblement, ce cher Schrödinger avait un problème avec les chats. Peut-être qu'il ne les aimait pas ou au contraire, il avait peut-être envie de ressusciter son chat de compagnie mort. En tout cas, chers auditeurs, si vous ne comprenez pas tout ce qu'on est en train de vous raconter, ne vous en faites pas, c'est normal. On est vraiment sur la base de la physique quantique et souvent, il faut faire des années d'études, je crois, pour réussir à appréhender le quantique.
Néanmoins,
Néanmoins,
bah, le but de la culture scientifique, c'est d'essayer de rendre accessibles des concepts. Alors, on vulgarise, donc on, quelque part, au terme à l'origine, vulgariser, c'est rendre vulgaire, c'est rendre accessible à tous, rendre commun. Donc, quand vous vulgarisez, quelque part, vous déformez un petit peu le message scientifique, c'est inévitable puisque vous simplifiez. Mais il y a des moyens quand même, comme l'a donné Titania à l'instant, d'expliquer un concept, d'expliquer un phénomène, de façon à pouvoir l'appréhender dans son concept général. Il ne s'agit pas de donner des formules, etc. Ce n'est pas ça la culture scientifique. C'est donner des éléments d'information et surtout inviter le public. Et ça, c'est ce qu'on fait, nous, au niveau de Centre Sciences, au niveau de nos expositions, au niveau de nos actions. C'est donner le public envie de se questionner. Quand vous arrivez à enclencher dans l'esprit du public une interrogation lorsqu'il voit une expérience, lorsqu'il voit une manipulation, qui cherche à se questionner, à comprendre ce qu'il voit, vous avez déjà gagné une certaine étape dans votre message. C'est-à-dire que vous allez l'interpeller et vous allez lui donner, si possible, l'envie d'essayer de comprendre et l'envie d'essayer d'en savoir un petit peu plus. Et là, on rentre vraiment dans le vif, dans le cœur de notre métier, on va dire, de culture scientifique d'une façon générale.
Et je vais renchérir sur ce que tu dis, Olivier, parce que ce besoin de comprendre, pour aller plus loin, le public va être obligé de mettre en œuvre une démarche scientifique. Mmh. Et ça, cette démarche scientifique qui est basée sur l'esprit critique, c'est la chose universelle qui est au fond la plus importante à faire développer chez les gens, que tout un chacun devrait essayer de manipuler. Après, c'est comme de la gymnastique, hein, ça devient automatique. Et pourquoi? Parce que c'est quand même le garant contre toutes les manipulations qu'on peut subir par les réseaux sociaux, etc. Vérifier une information et vraiment se demander, par exemple, si qui nous dit quoi et pourquoi, ça me paraît la première des choses à faire quand on apprend quelque chose.
Alors, il y a un enjeu politique, citoyen.
Un enjeu citoyen.
Et cette démarche scientifique, plus on essaye de l'initier tôt à l'école, mieux c'est. Parce qu'effectivement, si vous arrivez comme ça... Alors le problème souvent, c'est les enseignants. Bah, les enseignants, surtout au niveau primaire, 80% des enseignants sont des littéraires de formation initiale. Donc peu sont scientifiques. Donc ce qui fait qu'il faut aussi réussir à les former, à les sensibiliser, à leur donner du matériel, à leur donner aussi l'envie de faire, parce que c'est pas évident de s'approprier des concepts et d'essayer de les transcrire pour que les enfants aient cette démarche scientifique. Mais plus vous le faites tôt, mieux c'est, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on vous répond à une personne à qui on essaie de parler science et qu'elle nous dit « les sciences, c'est pas pour moi, je suis pas assez intelligent, on me l'a trop dit à l'école ».
Alors moi, ça me fait toujours de beaucoup, beaucoup de peine, parce que science et intelligence, c'est pas forcément synonyme. Et puis, on n'est pas tous et toutes ni toutes prix Nobel. Et la science, on peut la comprendre, l'appréhender, quel que soit son bagage. Je prends souvent l'exemple de les jeunes enfants, finalement, quand ils balancent leur cuillère 1000 fois de leur table, de leur chaise haute, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la science, ils étudient la répétabilité et la gravité, quoi. Donc, la science n'a pas de niveau d'intelligence, c'est difficile, parce que je pense qu'on a encore ce vieux réflexe de si on n'est pas bon en maths, on est nul. Ça, c'est des choses qui datent d'il y a très très longtemps. Les maths sont une matière éteinte, une matière sélective, etc. La science fait peur. On ne sait plus trop où elle est. Paradoxalement, hein, la physique est partout. On est dans un monde extrêmement scientifique. Il y en a dans tous les domaines, hein, que ce soit les transports, le numérique, la santé, l'aéronautique, dans tous les domaines, j'en oublie, hein, il y a de la science. Et on ne la voit plus. Et ça, c'est vraiment dramatique, en fait.
C'est marrant, ça me renvoie à mon tout premier cours de physique-chimie quand j'étais au collège, où notre professeur nous a passé une vidéo. Quel serait un monde sans, justement, la physique et la chimie? Et en fait, on voyait un personnage, le protagoniste, qui évolue dans le monde. Il voulait ouvrir le frigo et le frigo disparaissait. Il voulait se connecter, son ordinateur disparaît. Et chaque objet qu'il touchait finissait par disparaître, et finalement, en fait, il se retrouvait quasiment au milieu de la nature.
C'est ce que je voulais rajouter, c'est que au quotidien, quand on vit tous les jours, on fait la cuisine, etc., on est amené, sans le savoir, à appréhender des phénomènes qui, derrière, peuvent s'expliquer scientifiquement. Prenons un exemple tout simple. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette petite expérience qui consiste à vérifier si les œufs sont encore bons ou pas.
On les enfante dans l'eau.
On les met dans l'eau et on voit s'ils coulent ou s'ils flottent. S'ils flottent, effectivement, c'est que, bon, ils ont...
Poubelle.
Ouais, en général. Alors, pas force. Ah. Ouais. L'idéal, oui. C'est poubelle. C'est parce qu'ils sont très...
Compost maintenant.
Voilà. Il y a de l'air à l'intérieur, ils remontent, ils flottent. Mais ça, c'est une expérience de physique, mais c'est une expérience qui s'explique aussi chimiquement parce que l'œuf évolue. Et ça, c'est typiquement le genre d'expérience qui peut s'expliquer. Vous faites de la mayonnaise, vous faites de la vinaigrette, vous expliquez tout simplement qu'il y a des liquides immiscibles. Et on peut faire de la science, on peut découvrir des petits phénomènes scientifiques tout au long de sa vie quotidienne. Après, il faut être capable effectivement de les expliquer, mais il existe énormément de petits ouvrages. On voit parler parfois de la science pour les nuls. Il existe même un ouvrage. Il y a eu des premiers ouvrages de vulgarisation scientifique, ce qu'on appelait les tome-titres, en fin du 19e, des centaines de petites expériences, 3 livres de 100 expériences, que déjà à l'époque, on essayait de vulgariser auprès du public. Donc, il y a possibilité. Après, il faut être curieux. Il faut essayer aussi d'entretenir une forme de curiosité. Je fais quelque chose chez moi. Mais pourquoi ça fait que ça? Pourquoi ça fait ci? Exemple, pourquoi le ciel est bleu? C'est la question la plus classique que nous, on utilise quand on veut essayer d'expliquer un peu la démarche de culture scientifique. Expliquer ce qui se passe, pourquoi le ciel est bleu. Ça paraît tellement évident pour tout le monde. Mais ça revêt derrière des explications un petit peu plus poussées. Mais néanmoins, c'est expliqué.
Et alors, pourquoi le ciel est bleu? C'est une question de gaz, je crois, il me semble.
C'est tout simplement parce qu'il y a un phénomène de diffusion, c'est-à-dire que la lumière, Titania pourra en parler, la lumière qui vient du soleil traverse l'atmosphère, et une partie du spectre est rétrodiffusée dans l'atmosphère, c'est le bleu. Voilà, principalement.
Donc, qui nous parvient jusqu'à nous, jusqu'à notre...
Alors, le bleu qui se diffuse dans le ciel. Un bleu du ciel. Ce qui fait que le soleil que vous voyez, en réalité, est légèrement plus jaune qu'il ne l'est en réalité dans l'espace. Et ce phénomène s'accentue au fur et à mesure que vous traversez l'atmosphère. Ce qui explique pourquoi le soleil apparaît orangé au coucher du soleil. Le phénomène est encore plus accentué.
Et c'est pour ça que sur les photos de la NASA, par exemple, on voit un soleil qui est rougeoyant, en fait, finalement.
Alors, parfois, effectivement, il peut être rougeoyant. Ça dépend où il est pris. Si vous êtes sur Mars, avec une atmosphère riche en poussière, vous prenez, par exemple, des villes très polluées. Si ça vous arrive de voir que le ciel n'est même plus bleu, il est quasiment orangé, parce que ce phénomène de diffusion est accentué. Plus vous avez donc de polluants, de poussière, etc., vous accentuez ce phénomène de diffusion et à ce moment-là, votre ciel apparaît différemment.
C'est le cycorose aussi, je crois, avec le sable du Sahara, ça, c'est bizarre.
Alors effectivement, il peut y avoir aussi des phénomènes liés tout simplement aux poussières qui sont à l'intérieur.
Et qui viennent modifier,
qui viennent modifier la diffusion de la lumière, tout simplement.
Titania, tu souhaitais réagir?
Non, mais j'écoute Olivier qui part très vite dans les étoiles.
Mais justement,
c'est toujours un plaisir de l'écouter. C'est un grand vulgarisateur.
De l'éviter, oui, de l'éviter dans être
de
dans
l'éviter,
la pesanteur,
oui.
Voilà, dans l'élévation de l'esprit. Tu disais,
je voulais rajouter. Vulgaire. Tout à l'heure, Titania a parlé des anchoelles, de l'invisibilité.
Oui.
Il se trouve que sur Châteauroux, la semaine prochaine, samedi, il y a un physicien de l'université d'Orsay. Vous vous rendez compte, il vient de Paris exprès. Il va être sur l'IUT. Il va faire une conférence. Il tient un atelier, il fait de la physique et de la chimie un peu exceptionnelle, un peu originale, et il va parler de la cape d'invisibilité de Harry Potter. Il va expliquer effectivement comment aujourd'hui, par justement le biais de matériaux réfléchissants, etc., on pourrait, on va rester très conditionnel, on pourrait effectivement imaginer une invisibilité des objets si on était capable de leur donner des propriétés autour d'eux, sur eux, pour pouvoir réfléchir totalement la lumière et les rendre invisibles. Donc il va nous faire une belle conférence sur l'hypothétique cape d'invisibilité d'Harry Potter.
Chouette.
Pierre-Étienne Rouet. Voilà.
Vous êtes toujours dans La Science Infuse, on est ensemble jusqu'à 15h, on parle de science et de la fête de la science avec nos invités Olivier Morand, directeur de Centre Sciences, et Titania Gibert, physicienne spécialisée dans les plasmas et lasers à l'Université d'Orléans. Je l'ai bien dit cette fois son prénom.
Parfait.
On va revenir dans quelques instants après cette courte pause musicale. On va revenir un petit peu sur le maillage national, puisque Centre Sciences, on pourra parler un petit peu des missions de Centre Sciences et également de comment ça s'inscrit au national, justement, avec d'autres structures similaires. Et on recommencera avec toi juste après ce morceau, Titania, puisque tu disais La science et l'intelligence, c'est deux choses qui sont différentes. Tu l'avais dit tout à l'heure et on pourra redéfinir ça ensemble justement, parce qu'il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre la science ou du moins l'appréhender. Restez avec nous, Madness de Insolate, tout de suite sur Radio Campus. elle infuse la science comme ce sachet de thé que vous avez probablement entre les mains, chers auditeurs et auditrices, vu que la météo aujourd'hui n'est pas clémente. C'est le meilleur moment pour s'installer confortablement et écouter cette émission jusqu'à 15h, la science infuse avec nos deux invités. Je le rappelle, on a Olivier Morand, directeur de Centre Sciences, et Titaïna Gibert, elle est physicienne à l'Université d'Orléans. Et également, tu me disais, Titaïna, dans le groupe SAPS, la mission SAPS Science avec et pour la société de l'université.
Oui, je fais partie de ce groupe qui est piloté par Geneviève Guettem.
Je me demandais du coup, comment tu travailles avec Centre Sciences, dans quel cadre, comment ça fonctionne ?
C'est du bénévolat, du volontariat, je ne sais pas comment on peut le dire, c'est en dehors et avec mon travail, c'est la limite est flou, mais bon, je ne suis pas payée pour travailler avec Centre Sciences, si c'est la question.
Il y a deux choses. Il y a l'engagement personnel de Titaïna Gibert au sein de Centre Sciences, puisqu'elle est vice-présidente de la structure, de l'association. Et puis, il y a son rôle de scientifique qui veut, tout simplement vulgariser, médiatiser son travail.
Mais tu ne me l'avais pas dit, vice-présidente du coup de Centre Sciences.
Oui, j'ai eu l'honneur d'être élue vice-présidente de Centre Sciences il y a quelques mois, oui.
Eh bien, toutes mes félicitations. Du coup, je voulais revenir vers toi, Titaïna, du coup, avec justement tout à l'heure, tu disais, il y a donc la science et l'intelligence, c'est deux choses différentes.
Alors oui, cette phrase qu'on entend trop souvent, je crois, est peut-être souvent dite par des jeunes femmes ou des femmes. J'ai l'impression que je l'entends plus de bouche féminine. C'est toujours extrêmement triste. Alors, moi, j'ai une définition de l'intelligence qui vaut ce qu'elle vaut. Pour moi, l'intelligence, c'est la faculté de s'adapter. Ça n'a rien à voir avec la capacité à calculer des équations, à comprendre un concept philosophique ou pas, à savoir lire un bouquin en anglais, en allemand, en russe ou pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Donc, et puis, souvent, c'est des choses non pas qu'on croit, qui viennent de nous, mais c'est des choses qu'on nous a dites. Par exemple, il y a des gens qu'on a dit, toi, non, mais t'es nul en art, c'est pas la peine que tu fasses de la musique. Toi, non, tu seras scientifique, c'est pas la peine que tu lises un bouquin, c'est pas la peine que tu fasses du philo. Oh, toi, c'est pas la peine que tu fasses des maths, t'es nul. On est parfois prédestiné, conditionné par des choses qu'on a entendues quand on était jeune et qui sont pas forcément vraies. Donc, moi, je conseille d'essayer. Juste essayer. Il y a actuellement, en dehors des fêtes de la science, tout un tas de propositions d'action, de culture et de médiation scientifique partout sur le territoire, même en vacances. Vous pouvez trouver des propositions. Il y a des structures comme des musées et d'autres structures qui sont là pour accueillir le public de plus en plus, avec, j'ai l'impression, des médiateurs et des médiatrices de plus en plus proches du public, justement. Mmh. Et puis, il y a un outil extraordinaire qui est le net. Et sur le net, vous avez quand même des chaînes de culture scientifique, pour pas en citer Sciences Étonnantes, par exemple, faites par des gens qui sont très compétents, de véritables scientifiques et qui ne disent pas de bêtises. Et quand vous regardez ces émissions sur le net, vous êtes protégé, vous êtes caché, personne ne va vous juger. Vous pouvez même oser poser une question. Souvent, je pense qu'on doit pouvoir poser des questions. Et il faut juste vous dire que nous, les scientifiques, on est toujours très contents quand on nous pose une question. Et on ne méprise personne et qu'aucune question n'est une question bête. Et dans les questions que vous jugerez simple, nous, on verra des choses parfois compliquées qui nous aideront aussi à progresser. Vos questions, ce sont les échanges qu'on fait, c'est toujours bon pour tout le monde, celui qui pose la question et celui qui y répond.
Finalement, il n'y a pas de personne bête, ça.
Non.
Et la culture scientifique, elle est accessible à tout le monde.
Mais oui.
Mais au même titre que la culture en général.
Mais là, on parle de culture scientifique.
Mais là, on parle de
manière générale. Et on peut quand même réussir à avancer dans la vie et atteindre certains postes de direction en ayant parfois quelques difficultés scolaires. Et des fois, ça peut être justement des professeurs. C'est ce que tu me disais, Olivier, qui peuvent justement créer ce déclic.
Ouais, moi, personnellement, c'est aux alentours de la première que j'ai eu un déclic vraiment sur l'envie, l'appétence pour les sciences, grâce à un professeur. J'étais sur Blois, au lycée des Seignes, pour ne pas le citer, et avec un professeur de physique qui était génial, un jeune en plus, qui faisait de la magie en plus parallèlement à son activité, et Voilà, il était tellement passionné et passionnant que c'est ce qui m'a donné vraiment... Alors, je m'intéressais déjà à d'autres sujets comme l'astronomie, mais à titre personnel, mais vraiment les sciences, l'envie vraiment d'aller vers les sciences, c'est à partir de la première. Comme quoi, on peut tout à fait être indécis, incertain en collège, début de collège. Alors, on demande maintenant aux enfants de se déterminer de plus en plus tôt, ce qui est un peu compliqué, parce qu'effectivement, quand vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire trop tôt, ça devient difficile. Et moi, je sais que moi, le déclic, c'est la première. Voilà.
À toi qui es derrière ton poste de radio et qui pense ne pas être intelligent, qu'est-ce qu'on peut lui dire, Olivier Titania, qu'est-ce qu'on lui dit ?
De ne pas croire ce qu'on vous dit de vous.
Tout à fait. Tout à fait, d'accord.
Eh bien, des belles paroles. On continue, du coup, cette émission de La Science Infuse en parlant un petit peu de Centre Sciences, puisque du coup, alors, c'est pas Centre Sciences qui organise, c'est Centre Sciences qui coordonne. C'est bien le verbe qu'il faut utiliser. Alors, c'est en région Centre-Val-de-Loire, mais la Fête de la Science, c'est un peu partout.
Alors, la Fête de la Science, pour rappeler un petit peu l'historique, c'est 1991, la première édition, mais strictement parisienne, à l'initiative du Bercurien au départ, ministre de la Recherche. Ça a tellement bien fonctionné au sein de Paris et du ministère que Hubert Curien a décidé de nationaliser l'opération à partir de 1992. Donc là, on est à la 33e édition en comptant 91. Et le ministère a tout simplement, à l'époque, dédié à un certain nombre de structures sur le territoire national, ce qu'on appelait les centres de culture scientifique, technique et industrielle, dans l'acronyme CCSTI. Et il en existait donc une bonne vingtaine sur le territoire national. Et donc, avec un financement pour aider, bien sûr, pour pouvoir financer les salariés qui travaillent. Il y a ce travail, ce rôle de coordination qui a été initié auprès donc, de ces structures qui vont relancer un appel à initiative auprès des acteurs sur le territoire, qui connaissent leur territoire, qui vont tout simplement à la rencontre des organismes de recherche, des laboratoires, des scientifiques, mais également des associations, des musées, des acteurs culturels pour leur dire, voilà, c'est la fête de la science à telle période, est-ce que vous auriez un projet à proposer, une idée, une initiative que vous avez envie de partager avec le public pendant ce temps. Et donc ça, c'est le rôle de coordination que mène Centre Sciences et que mènent sur le territoire national un certain nombre d'acteurs.
Alors, quelques noms, justement, de ces organismes ADELF de Centre Sciences qui organisent dans d'autres régions. Je suis curieux de connaître. Ils ne s'appellent pas tous Centre Sciences, j'imagine.
Non, Centre Sciences, ça, c'est notre nom. Mais il y a effectivement des structures à Rennes, l'Espace des Sciences. Vous avez Cap Sciences à Bordeaux.
C'est le DOMAC, c'est ça hein.
Pardon ?
À Caen, c'est le Dôme ?
C'est le Dôme, il y a le Dôme, et il n'y a pas que le Dôme, oui, mais il y a principalement le Dôme, mais il y a aussi Science Action, une autre structure qui est sur Rouen. Il y a effectivement Poitiers, l'Espace des Sciences.
Dans le Nord, non ?
Il y a le Cube.
Il y en a une vingtaine.
Alors, je ne sais pas tout en tête, là, mais voilà. Donc, ce sont ces structures qui jouent un rôle d'animation territoriale ou d'action territoriale de culture scientifique sur leur territoire qui sont mandatés par le ministère via ce qu'on appelle les DRARI pour pouvoir coordonner sur un territoire les actions de culture scientifique de la Fête de la Science.
Donc une vingtaine d'acteurs et d'actrices de structures qui organisent la Fête de la Science en région. En parallèle, Centre Sciences fait partie aussi d'un réseau national, c'est l'AMSTI, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Il existe un réseau d'acteurs qui est... Pareil, une structure associative qui s'appelle l'AMSTI, qui a été créée en 1982 ou 83, j'ai plus tout à fait la date en tête. Et cette structure fédère toutes les structures de culture scientifique et de façon à pouvoir aussi défendre leur parole vis-à-vis du ministère ou vis-à-vis des ministères ou de l'État. Et puis coordonner un certain nombre d'actions qui peuvent être partagées et permettre aussi aux acteurs de se rencontrer à travers des thèmes. On parlera tout à l'heure peut-être du congrès. Et donc l'AMSTI fédère près de 150 structures au niveau national. Donc il y a les acteurs de culture scientifique, mais il y a des associations, il y a des collectivités, il y a des universités, il y a des musées. Donc voilà. Et donc tous ces acteurs s'identifient comme un acteur de culture scientifique.
Une grande famille, en tout cas, si on rezoome.
Et qui représente, c'est important quand même, et qui représente quand même beaucoup d'emplois aussi. Derrière, il faut aussi voir l'aspect économique des choses. C'est-à-dire que on travaille, il y a des emplois, il y a plusieurs milliers d'emplois à travers ces acteurs. qui eux-mêmes font travailler à travers des graphistes, des imprimeurs, des maquettistes, pourquoi pas, qui font travailler énormément d'acteurs et d'entreprises pour travailler sur ces actions de culture scientifique.
Donc toute une grande famille et quelque part une grande richesse, j'ai envie de dire, pour le territoire national. Si on rezoome à l'échelle de la région Centre Sciences, alors vous coordonnez la fête de la science, il y a également une plateforme, c'est Écosciences.
Oui, alors on coordonne, alors on a nos actions PAMP en tant que structure, comme tous les acteurs sur le territoire, et justement cette plateforme qui a été initiée par un collègue de Grenoble avec Rennes et puis Toulouse qui s'appelle Écosciences, maintenant se nationalise. Et c'est tout simplement une plateforme qui permet à chaque acteur sur le territoire de déposer ses actions à travers un agenda, de déposer des articles. On a des scientifiques qui rédigent régulièrement des articles scientifiques vulgarisés, bien sûr, sur le portail. Et donc, le portail Écosciences Centre Val-de-Loire permet au public, tout simplement, d'aller chercher l'information de ce qui se fait autour de lui à travers un agenda d'action. Et on va y retrouver aussi bien des acteurs culturels, des acteurs associatifs, éducatifs à travers des établissements scolaires qui proposent des actions et qui les identifie. Alors c'est ce qu'on essaye de faire, de diffuser de plus en plus, c'est-à-dire que ce portail, il est fait pour les acteurs, pour qu'ils puissent valoriser leurs actions, et il est fait aussi pour le public, pour aller chercher ce qui se fait proche de chez lui.
D'autres actions de Centre Sciences tout au long de l'année ?
Alors nous, nos propres actions consistent, on a ce rôle d'animation territoriale justement avec les acteurs. On fait des vidéos avec les acteurs qu'on présente sur notre chaîne ou qu'on diffuse et qu'on accompagne les acteurs dans ce rôle de diffusion. On peut faire des aides aussi un peu techniques, matérielles. On diffuse et on crée des expositions en lien avec les laboratoires, en lien avec les scientifiques, que l'on diffuse dans les établissements scolaires qui en font la demande, des malles pédagogiques. Si je prends par exemple là avec le CNRS, il y a quelques années, on a réalisé une malle qui s'appelle le malle neuromythe, qui explique justement les mythes que l'on a autour du cerveau. Et vous avez certainement déjà eu l'occasion d'inviter Olivier Richard là-dessus. Et donc cette malle, elle itinère dans les collèges. Il y a un programme qui s'appelle Cosmétosciences sur l'université. Et bien, on a fait une malle sur les cosmétiques. Mmh. Et donc elle peut tourner. Et donc tous ces objets que l'on essaye de concevoir s'appuient sur des programmes, s'appuient sur la recherche régionale. Et puis on essaye de les diffuser le plus possible auprès des acteurs.
Où est-ce qu'on retrouve toute cette information ?
Alors, on a
et le programme de la Fête de la Science,
alors,
évidemment.
Il y a deux choses. Il y a notre site internet, centrescience.org, tout simplement, qui permet d'avoir des références sur les actions et puis sur les outils et les ressources. Et puis, il y a le programme Fête de la Science en lui-même, donc fêtedelascience.fr, site officiel du ministère qui permet de recenser toutes les actions.
Eh bien, merci tous les deux d'avoir été avec nous dans la Science Infuse. Olivier Morand, directeur de Centre Sciences, et Titaïna Gibert, physicienne à l'Université d'Orléans, vice-présidente également de Centre Sciences, il faut le noter. Alors, une toute dernière question qu'on pose à tous nos invités. Radio Campus Orléans, en fait, c'est 30 ans. Et ce qu'on aime poser comme question, c'est où étiez-vous il y a 30 ans ?
Ah, bonne question. Il y a 30 ans, 94.
C'est ça.
94.
Moi, j'étais à Centre Sciences.
Ouais.
Voilà. Alors bon, tout à l'heure, vous me posiez la question, le petit déclic, donc c'est une première. Voilà. Moi, j'ai travaillé beaucoup comme animateur à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris, avant d'intégrer Centre Sciences en 1992, pour justement coordonner la première fête de la science en 92. Donc en 94, en 94, j'étais sur Centre Sciences et je travaillais pour...
30 ans de fête de la science.
32 même.
32 ans de fête de la science. Et toi, Titaïna ?
Eh bien, moi, j'étais tout juste embauchée dans une école d'ingénieurs qui s'appelait l'ESPO, qui est un des deux ancêtres de Polytech Orléans. Donc, je commençais à préparer mes cours de mécanique quantique, je pense, à cette heure-là.
Et dans 30 ans, comment se portera la fête de la science ?
Ah, ça, il faudra demander au ministère de la Recherche. Les acteurs, de toute façon, eux, même s'il n'y avait plus de fête de la science, je pense que de toute façon, les acteurs auront toujours envie, qu'ils soient scientifiques, éducatifs, associatifs, auront toujours envie de communiquer, de présenter leurs actions et présenter leurs résultats. Donc on trouvera toujours le moyen de créer un événement, des actions sur un territoire qui permettront, des actions qui permettront de présenter au public ce qui se fait et ce qui se crée.
Voilà. Merci beaucoup tous les deux, Olivier Morand et Titaina Gibert. J'ai enfin réussi à prendre le pli et à prononcer correctement. Restez avec nous sur Radio Campus Orléans. Dans quelques instants, on continue d'écouter la série de podcasts réalisés par les doctorants et doctorantes de l'Université d'Orléans. On parlera de résonance magnétique des protons, mais pour l'heure, on écoute Rush. C'est un titre de Little Dragon. À tout de suite. Little Dragon avec le titre Rush sur Radio Campus Orléans dans la science infuse. On est encore ensemble pour 12 minutes. Je vais vous proposer de partir à la découverte de l'histoscience de l'univers avec notamment une doctorante, c'est Clémence Riquet-Bosch. Notamment, elle parle autour de l'apport de la tomographie par résonance magnétique sur les protons, la RMP, par l'amélioration de la prise en compte. Alors, j'ai Tu voulais dire quelque chose ? Non, absolument pas. J'ai toujours mes invités qui sont avec moi et qui sont en train d'écouter. Et Titaina était en train je pensais qu'elle voulait interagir pour peut-être parler de résonance magnétique des protons. En tout cas, Clémence va nous en parler et justement donc de cet apport de la résonance magnétique des protons pour l'amélioration de la prise en compte du changement d'échelle et l'hétérogénéité dans les modèles des transferts hybrides dans la zone non saturée. Vous allez voir, dans quelques instants, ça va faire sens.
Aujourd'hui, nous nous retrouvons en exclusivité dans le QG de l'agent H2O, en pleine préparation de sa prochaine mission. Infiltrer les calcaires de Beauce. pour atteindre la nappe phréatique. On appelle cette zone entre la surface et la nappe la zone non saturée. En effet, avec l'agriculture, une menace de taille pèse sur la nappe phréatique, puisque des agents polluants s'apprêtent à infiltrer les calcaires pour la polluer. L'objectif de l'agent H2O est d'anticiper la descente des agents polluants en infiltrant lui-même les calcaires pour faire une reconnaissance et protéger au mieux la nappe phréatique. Nous sommes à la rencontre de Clémence Riquebouche, doctorante au BRGM et à l'Université d'Orléans, au laboratoire ISTO, dont la thèse est cofinancée par le BRGM et par la région Centre-Val de Loire. Clémence est en pleine analyse du terrain pour pouvoir guider au mieux l'agent H2O au cours de sa mission. Bonjour Clémence, comment se passe cette préparation ?
Bonjour Hassan. Eh bien, cette préparation se passe parfaitement bien. Je suis en pleine analyse des images des calcaires afin de pouvoir guider au mieux l'agent H2O. En effet, les calcaires de Bosse sont complexes et hétérogènes. Dans son parcours, l'agent H2O rencontrera majoritairement des successions de salles et de tunnels qui sont plus ou moins larges et difficiles à traverser. Mais, selon le chemin qu'il prendra, l'agent H2O pourra se retrouver piégé dans des tunnels tellement étroits qu'il lui sera impossible de s'échapper. Ce sont les argiles. Au contraire, certains de ces tunnels seront si larges qu'il lui sera très facile de les traverser. Ce sont les karsts. Mon travail consiste donc à imager ces calcaires et à analyser ces images afin de trouver le chemin le plus adéquat pour l'agent H2O. Et pour cela, j'utilise des méthodes géophysiques.
C'est quoi la géophysique au juste ?
Eh bien, la géophysique, ça consiste à imager le sous-sol sans avoir à creuser, avec des méthodes non-invasives. Imaginez que l'on vous offre un gâteau et que vous voulez absolument savoir ce qu'il contient, mais sans le couper, pour ne pas vous faire prendre. Eh bien, vous pouvez mettre votre gâteau dans un scanner et regarder l'image de l'intérieur de votre gâteau. Dans notre cas, à partir de capteurs que l'on place en surface, il est possible d'imager notre calcaire.
Mais qu'est-ce que vous imagez exactement ? Peut-être une photo du sol ?
Ce n'est pas directement une photo du sol. Par exemple, pour savoir si mon calcaire contient plutôt du karst ou de l'argile, je peux utiliser la méthode de la résistivité électrique. Plus cette résistivité électrique est grande, et plus le courant aura du mal à passer. Concrètement, la mesure consiste à injecter un courant électrique dans des barres métalliques de 30 cm que l'on plante dans le sol. On appelle ça des électrodes. Ce courant électrique va circuler plus ou moins efficacement dans les calcaires, puis revenir jusqu'en surface. Pour évaluer l'efficacité de circulation du courant, on mesure une autre grandeur, la tension entre deux électrodes. Le rapport entre la tension mesurée et l'intensité du courant injecté correspond à la résistance électrique. En faisant varier la distance entre les deux électrodes, on fait varier la profondeur jusqu'à laquelle circule le courant. Cela permet de construire une représentation en 3D du volume de notre calcaire que l'on appelle un modèle 3D.
Comme notre gâteau finalement.
Exactement. Mais alors, un très très grand gâteau. Car notre modèle 3D a une taille de plusieurs dizaines de mètres cubes. Ça fait un sacré gâteau. Ce qui est bien avec la résistivité électrique, c'est qu'elle varie en fonction des roches, ce qui nous permet de les différencier et ainsi de pouvoir indiquer à l'agent H2O le chemin le plus rapide pour atteindre la nappe phréatique.
Et donc, avec cette image de résistivité électrique, vous avez trouvé le chemin pour H2O. Est-il prêt à partir ?
Alors, non, pas tout à fait. Car il faut qu'on puisse assurer sa sécurité. Et pour cela, il ne doit jamais être isolé. C'est pourquoi je dois vérifier qu'il y a suffisamment d'eau tout le long de son chemin dans les calcaires. Et pour mesurer la teneur en eau, j'utilise la méthode RMN.
La quoi ?
La RMN. C'est vrai que ça paraît barbare comme terme, mais en fait, ça n'est pas tant que cela. Puisque la RMN suit le même principe physique que l'IRM. C'est la radio qu'on fait à l'hôpital.
« D'accord, mais comment ça marche, les RMN ?
Eh bien, revenons à notre gâteau. Imaginez qu'on le met au micro-ondes. Lorsqu'on démarre le micro-ondes, des ondes vont apporter de l'énergie qui va interagir avec notre gâteau et le chauffer. Pour notre calcaire, c'est simple. On déroule un câble pour former une boucle d'une dizaine de mètres carrés placée sur le sol au-dessus du volume de calcaire à explorer. Puis, nous injectons un courant électrique dans cette boucle. Ce courant électrique va interagir avec l'hydrogène des molécules d'eau et induire un champ magnétique, comme un aimant. Plus il y a d'eau, et plus l'intensité de ce champ magnétique sera élevée.
Et que devient ce gâteau ?
C'est vrai, on a failli oublier celui-là. Lorsque le micro-ondes s'arrête, on va mesurer la température du gâteau, c'est-à-dire à quel point il a chauffé. Pour notre calcaire, c'est pareil. Lorsque l'on arrête l'injection du courant électrique, on va mesurer l'intensité du champ magnétique induit, c'est-à-dire la teneur en eau. Nous obtenons également un modèle 3D de plusieurs dizaines de mètres cubes que l'on peut interpréter avec le modèle 3D de résistivité électrique.
Et comment allez-vous suivre l'agent H2O infiltré avec votre RMN si vous voulez assurer sa sécurité ?
Excellente question, car l'image que l'on a maintenant ne reflète pas forcément la teneur en eau qu'il y aura pendant sa mission. Pour le suivre, je vais imager régulièrement la teneur en eau pendant son parcours. J'obtiens alors un enchaînement d'images prises à des instants différents, comme un dessin animé. Ainsi, je vais pouvoir suivre H2O en quasi-simultané. Dans le jargon, on appelle ça du time-lapse.
Et comment être sûr que l'image représente bien la réalité du terrain ?
C'est vrai que l'on ne peut pas être sûr que l'image reflète la réalité du terrain tant qu'on ne l'a pas vue. Et pour en être sûr, on a quand même décidé de creuser. Mais pas un petit forage. Un puits énorme de 4 mètres de large et de 20 mètres de profondeur pour pouvoir observer en direct la zone non saturée. Et comme on est des espions, on lui a donné un nom de code. OZNS, pour Observatoire de la zone non saturée.
Notre agent est donc maintenant prêt à affronter sa mission en toute sécurité. Avez-vous autre chose à rajouter pour nous expliquer votre travail ?
Oui, j'aimerais ajouter que c'est vrai que mon quotidien consiste à mesurer et analyser ces images, mais ce qui fait la force et l'originalité de mon travail, c'est de coupler les méthodes géophysiques, mais aussi les échelles de mesure. Car pour avoir un maximum de détails sur le parcours d'H2O, j'analyse à la fois des images à grande échelle, comme nos modèles 3D qui font plusieurs dizaines de mètres cubes, mais aussi des données géophysiques mesurées dans des forages, à une échelle d'une dizaine de centimètres autour de ces forages. Ce qui me permet d'avoir une information plus détaillée.
Travaillez-vous au quotidien seul ou en équipe ?
Alors, la thèse est plutôt un travail solitaire, mais j'ai une équipe qui m'encadre et je tiens à les remercier. D'abord, mes directeurs de thèse, Mohamed Azarwal et Anatoly Lekchenko, mais aussi mes encadrants de thèse, Jean-Michel Baldassa, Pauline Kessouri et Nadia Amraoui.
Voilà, c'était le podcast de Clémence Rickebusch, qui est doctorante à l'Université d'Orléans et qui a signé justement donc cet épisode dans le cadre d'une série de podcasts qui est réalisée en partenariat avec l'Université d'Orléans. Vous êtes toujours dans la Science Infuse. On est encore ensemble pour deux minutes. Je vais en profiter pour vous dire au revoir. Vous souhaitez une excellente après-midi, pluvieuse soit-elle, mais toujours en bonne compagnie, celle de Radio Campus Orléans. Il est 15h dans moins de 2 minutes et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la Science Infuse, mais tout au long de la semaine, vos programmes continuent, que ce soit cet après-midi avec vos programmes habituels et votre soirée, ou alors, par exemple, demain avec Écoute ta fac de midi à 13h. À très vite, White Eyes de Jasmine Guffon et Eric K. Scottvin. On se quitte avec ce morceau.